Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Esprit Occitanie dans l'émission qu'on ne présente plus, Vers de Terre. Notre émission a été préparée par les étudiants et étudiantes de l'excellent Master Politique Environnementale et Pratique Sociale de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Nous serons deux présentatrices pour cette émission. Moi c'est Adèle, je vais présenter la première partie de cette émission, puis Mathilde prendra la relève pour la seconde partie, après la pause musicale. Bonjour Mathilde. Ça ne sera pas une émission banale, comme vous avez l'habitude d'en entendre. Vous allez plonger dans une discussion entre expertise, témoignage et questionnement autour d'un sujet très léger, le racisme environnemental. Ça ne vous dit peut-être rien, mais justement, restez jusqu'à la fin, on va essayer de décortiquer tout ça pour vous. Pour tout comprendre, il vous suffit de vous laisser porter par notre discussion dans laquelle nous allons vous présenter le concept de racisme environnemental depuis sa genèse jusqu'à son importation en France et jusqu'à aujourd'hui. Tout cela en s'appuyant sur l'affaire du chlordécone. Avant tout, on va faire un petit tour de table pour les présentations. Nous avons d'abord deux chercheurs et chercheuses en sociologie de l'environnement. D'un côté, Jules Dukheim, spécialisée sur les questions coloniales et notamment aux Antilles. Bonjour Jules Dukheim.
Bonjour.
Et de l'autre côté, Clément Bourdedieu, un chercheur qui s'est intéressé à la genèse du concept de racisme environnemental aux États-Unis et à sa traduction en France. Bienvenue Clément Bourdedieu.
Merci, bonjour. Mais après 10 ans d'études pour être payé au lance-pierre par l'éducation supérieure, et vous ne m'appelez même pas docteur ? Je blague, bien sûr. Hein. Enfin, pas pour le salaire, mais passons, on va s'appeler par nos prénoms.
Nous avons aussi la précieuse chance d'avoir à nos côtés Maryse, qui en tant que Martiniquaise pourrait apporter son témoignage sur la question, notamment dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Maryse, et merci beaucoup d'être là.
Bonjour, bonjour à tous. Et je suis vraiment très touchée de partager mon expérience avec vous tous.
Et aussi, comme nous avons l'habitude de faire à chaque émission, une personne est tirée au hasard parmi nos auditeurs et auditrices et a la chance de pouvoir nous rejoindre sur le plateau et de poser des questions. Cette fois-ci, l'heureux élu, c'est Farès. Bonjour Farès.
Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là parce que je suis en première année de licence de sociologie et c'est un sujet qui m'intéresse énormément, donc merci encore.
Eh bien parfait, vous allez avoir la chance de poser des questions à des sociologues, alors n'hésitez pas à intervenir à tout moment.
Et oui, on serve à quelque chose au moins.
Maryse, tout à l'heure, quand nous préparions cette émission, vous étiez en train de me parler d'un vote au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oui, le vote au Parlement, c'est un espoir. J'en parlerai plus tard. Pour l'instant, il s'agit d'un vote national. Le 29 février dernier, l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone.
C'est quoi le chlordécone et à quoi sert-il ?
Alors justement, Jules Dukheim, vous qui avez travaillé sur le cas des Antilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Alors oui, le chlordécone, c'est un insecticide pour les cultures de bananes. En fait, c'est un pesticide toxique pour l'environnement et l'humain. Et sa toxicité, elle a été démontrée à l'international en 1963, mais il est resté légal jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises.
Tout à fait. J'ai vécu ça en Martinique. J'ai même participé à l'une des plaintes collectives pour préjudice moral d'anxiété en 2019.
Vous dites préjudice moral d'anxiété ? C'est-à-dire ?
Ça veut dire qu'on est inquiet tout le temps du fait de la situation. Et ça, ça peut être porté devant la justice, en demandant réparation et en établissant un lien de causalité entre cette situation et l'état d'anxiété des Antillais.
Et ces plaintes collectives entraînent-elles des mobilisations ? Clément Bourdedieu, enfin, pardon, Clément, je vous appelle par votre prénom. On ne vous a pas encore entendu, est-ce que vous pouvez répondre ?
Oui, alors pour le cas de la Martinique, je ne pourrais pas en parler. Jules serait plus à même de le faire, c'est elle la spécialiste. Par contre, en ce qui concerne les États-Unis, je peux effectivement dire que les plaintes collectives ont entraîné des mobilisations importantes.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser ?
Bien sûr. Pour mieux comprendre, il faut d'abord parler du contexte américain. Si je vous dis Martin Luther King, ça vous parle ?
Oui, la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. I have a dream.
Exactement, Farès. Je vois que vous avez bien suivi vos cours d'histoire. Alors, comme vous le savez, il est une figure majeure de l'histoire des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Pour rappel, le mouvement pour les droits civiques, c'est une lutte portée par les Afro-Américains et Afro-Américaines dans les années 50-60 pour obtenir la déségrégation et l'égalité des droits dans la loi et dans les faits. Mais ce qu'on ignore le plus souvent, c'est que ce mouvement des droits civiques a entraîné dans son sillage un mouvement de justice environnementale aux États-Unis.
La justice environnementale, c'est-à-dire ?
Oui, c'est vrai, ça ne doit pas être clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Oui, à Houston, il y a eu une action juridique en 1979 qui a marqué le début de ce mouvement. Des résidents et résidentes s'opposent alors à l'installation d'une décharge municipale à côté de leur domicile. Et il et elle commandent une étude au sociologue Robert Bullard afin de documenter la localisation des décharges publiques dans tout Houston. Ces plaintes collectives ont entraîné des mobilisations et on peut considérer que c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire de la justice environnementale.
Qu'est-ce qu'elle a conclu cette étude et est-ce qu'elle a eu des conséquences ?
En gros, elle montre que le phénomène de pollution est plus fort dans les quartiers habités par les afro-américains et afro-américaines, alors même qu'ils et elles ne représentent que 25% de la population de la ville de Houston. Cette mobilisation est l'une des premières à reconnaître l'existence d'une discrimination raciale en matière d'exposition aux déchets et aux pollutions.
Oui, en fait, on peut dire que le sociologue observe un processus d'exclusion territoriale.
Oui, c'est ça.
L'exclusion territoriale. J'imagine que c'est quelque chose que vous retrouvez dans vos recherches, Jules. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus ?
Alors, Robert Bullard le définit comme, bon, accrochez-vous, l'ensemble des politiques, des pratiques et des directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu'elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, certains groupes ou certaines communautés en raison de leur race ou de leur couleur de peau.
C'est exactement ce qui se passe aux Antilles avec le chlordécone. Quand on se situe par rapport au territoire national, enfin je veux dire les Outre-mer par rapport à la métropole.
Tout à fait. Tout comme le cas d'Houston, aux Antilles, il y a une partie de la population française qui est davantage exposée à des pollutions par rapport à d'autres groupes de personnes. Au final, ces deux départements français, donc la Martinique et la Guadeloupe, ont continué à être contaminés alors que c'était interdit en France métropolitaine depuis 1990.
Mais en fait, c'est carrément un traitement inégal pour les Antilles. Un poids deux mesures par rapport à la métropole.
Alors on reviendra sur le cas du chlordécone dans la deuxième partie de l'émission, mais en effet, ça a clairement un lien. Clément, vous parliez de justice environnementale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept ?
D'accord. Le mouvement pour la justice environnementale qui s'est développé aux États-Unis fait le constat que les activités industrielles polluantes, et plus particulièrement les usines de stockage et de traitement des déchets toxiques, sont majoritairement situées à proximité des quartiers où vivent des classes populaires et des minorités ethniques, en particulier des Amérindiens, Amérindiennes et des Afro-Américains, Afro-Américaines. Et c'est le révérend Ben Chavis, un proche de Martin Luther King, qui utilise pour la première fois le terme de racisme environnemental dans le rapport « Déchets toxiques et race aux États-Unis » en 1987.
Donc si j'ai bien compris, certaines personnes, à cause de leur couleur de peau, leur ethnie, vivent à proximité de zones polluées et subissent du coup des problèmes de santé ?
Eh bien moi, j'ai envie de dire oui. En tout cas, c'est la première étude nationale qui croise des données géographiques et démographiques au sujet de l'implantation des sites de traitement toxique aux États-Unis. Et donc, en effet, cette étude démontre que les infrastructures les plus polluantes sont en grande majorité situées près des quartiers où vivent des minorités ethniques.
Donc oui, en fait, elle montre un type d'inégalité environnementale dans un contexte américain qui est issu d'une histoire sociale avec des hiérarchies, des rapports de pouvoir et de domination. En gros, les inégalités raciales sont liées à des inégalités géographiques, économiques et sociales. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte.
D'accord, mais attendez.
Harris, vous semblez perplexe ?
Oui, je trouve ça étonnant qu'autant de chercheurs et chercheuses soient d'accord sur une question qui semble aussi complexe.
Et la question que tu soulèves est très intéressante, parce que plusieurs chercheurs et chercheuses ont travaillé sur le racisme environnemental et le sujet ne fait pas consensus.
Et pourquoi il ne fait pas consensus, vous qui êtes expert sur la question ?
Et merci de rappeler que je suis un expert. Alors, certains pensent que c'est la couleur de peau et l'ethnie qui ont un impact sur le fait de vivre dans une zone polluée, comme on l'a vu en fait avec Robert Bullard. Tandis que d'autres pense que c'est la classe sociale qui est prédominante. Et là, c'est le cas du sociologue Stéphane Baud, par exemple. Il précise qu'on oublie trop souvent le genre, les effets de génération et d'institution qu'on peut retrouver dans le scolaire ou dans le sport, par exemple.
Alors, d'après mes recherches, la classe sociale et les discriminations de couleur et d'ethnie sont étroitement liées. C'est pourquoi je préfère prendre l'axe de l'histoire et de la couleur de peau, comme plusieurs chercheurs et chercheuses l'ont fait très récemment.
Mais ce que vous dites sur le racisme environnemental, c'est aux États-Unis. Ben Chavis et tous les autres, ils ne sont pas français et j'ai jamais entendu parler de ces problématiques en France.
Alors oui, les auteurs dont on a parlé sont américains. Mais c'est une pensée qui s'est aussi développée en Europe. Seulement, en France, la notion ne s'est pas développée de la même manière.
Oui, c'est vrai. Il faut rappeler que chaque notion est issue d'un contexte socio-historique différent. C'est aussi pourquoi il n'y a pas consensus sur la question et que les sociologues et les chercheurs et chercheuses ne s'accordent pas toujours sur ce qu'est le racisme environnemental.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça ne s'est pas développé de la même manière aux États-Unis et en France ?
Alors, le concept a été importé en France aux alentours des années 2000. Il a mis de côté les questions de couleur de peau pour se concentrer sur la classe sociale. Jusqu'à très récemment, les discriminations et inégalités que subissent les personnes racisées n'ont presque jamais été étudiées au prisme des inégalités écologiques.
Oui, en France, on ne peut pas mesurer le racisme environnemental, car les statistiques ethniques sont interdites. Du coup, ces stats, elles s'appuient sur d'autres données, comme le nom de famille, la nationalité et le lieu d'habitation.
Effectivement, j'ai lu un article qui parlait du racisme environnemental dans Street Press.
Oui, allez-y, continuez si vous avez d'autres éléments. Peut-être que Clément ou Jules pourront vous répondre.
Ça parlait des gens du voyage dans une aire d'accueil d'LM Ronchin, à Lille. Et apparemment, il et elle se battent contre l'usine de béton et la concasserie de gravats qui les empoisonne depuis 2013.
Oui, j'ai aussi lu cet article et ça illustre exactement les inégalités environnementales dont on parlait. D'après plusieurs études scientifiques, ces personnes sont surexposées à la pollution de l'air et aux nuisances sonores. Et tout ça, ça entraîne des problèmes de santé accrus et diminue l'espérance de vie. Donc pour cette aire de voyage dont on parlait, les maladies respiratoires sont beaucoup plus fréquentes que pour le reste de la population. Par exemple, il a été calculé que sur 10 naissances, 7 enfants ont de l'asthme.
Donc au final, il y a quand même des recherches sur le sujet en France.
Oui, mais les recherches sont assez récentes. Par exemple, celle dirigée par Séverine Deguin montre que certains quartiers populaires de l'Est de Paris, où se trouve une majorité de personnes racisées, sont aussi plus exposés à la pollution de l'air, principalement causée par la circulation automobile. Et la mortalité suite au pic de pollution y est plus élevée.
Exactement. Et j'en profite pour rappeler que d'après Santé publique France, les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 années inférieure à la moyenne de la population. Il ne faut pas oublier non plus que plus largement, le lieu d'habitation révèle d'autres facteurs d'inégalité comme la classe sociale, le genre, l'origine ethnique, la couleur de peau. On peut dire que ces inégalités, elles sont cumulatives.
Et on parle alors d'inégalités environnementales, parce qu'en fonction du lieu d'habitation, des personnes ont plus de risques d'être impactées par des pollutions industrielles, des catastrophes environnementales ou encore des événements météorologiques extrêmes.
J'ai vu quelques auteurs en cours, je crois que c'était Ramzi Kocheyan avec La Terre à conquérir et exploiter. Je crois, mais j'ai eu du mal à tout saisir.
Ah ben justement, est-ce que l'un de nos chercheurs présents pourrait expliquer le positionnement de cet auteur ?
Oui, bien sûr. Il rappelle que le racisme environnemental prend appui sur le principe de la terre à conquérir et à exploiter, qui conduit à des violences multiples envers des populations racisées. On peut donc dire que le racisme environnemental soulève donc inévitablement les questions du rapport à l'environnement en contexte de racialisation.
Oui, et il y a aussi Lucie Laurian et Richard Fundenburg, qui sont les premiers à s'intéresser au sujet en France. En 2014, ils publient une étude sur la localisation des incinérateurs de déchets en France depuis les années 1960. Ils montrent que pour chaque pourcentage supplémentaire d'immigrés présents et présents dans une ville, la probabilité de retrouver un incinérateur augmente de 29%. Ils montrent donc qu'il existe une inégalité d'exposition au risque de pollution industrielle.
Alors il y a quand même plusieurs auteurs, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a aussi des études qui sont faites par des institutions ?
Oui, oui. Il y a aussi des organismes qui ont fait des études sur ce sujet. Par exemple, pour pouvoir mesurer les inégalités raciales, il y a eu l'enquête « Trajectoire et origine » qui a été menée en 2016 par l'INED. Et ça, c'est vraiment la référence en la matière en France. Les premiers résultats de cette enquête montrent qu'une forte ségrégation résidentielle touche les immigrés et leurs descendants et descendantes. Et plus particulièrement, les Africains subsahariens, subsahariennes, les Maghrébins et Maghrébines et les Turcs, qui sont concentrés dans des quartiers modestes. Mais ces quartiers défavorisés sont aussi touchés par plusieurs inégalités écologiques, comme par exemple une mauvaise qualité de l'air, des pollutions diverses ou encore la proximité d'usines Seveso.
Alors, nous avons vu que le racisme environnemental en France est resté pendant longtemps une question marginale, mais que des auteurs se sont quand même emparés de la question, notamment sur le cas des banlieues, des quartiers populaires et des aires d'accueil. C'est bien ça ?
Et le cas des Outre-mer qu'il ne faut pas oublier. Les Outre-mer sont encore bien marqués par le scandale du chlordécone.
Justement, avant de revenir sur ce scandale, nous vous invitons à prendre une pause avec nous. Vous allez entendre La Mafia Seyo, tirée de l'album Mosaica d'Amiralty. On espère que ça vous plaira et surtout, restez à l'antenne, nous revenons juste après cette pause musicale.
La Mafia Seyo, La Mafia Seyo, La Mafia Seyo, et Seyo même da commande, Wulo, Kakakamos. Vie depuis Goliath, tous les jours un cabat pour essayer joindre les déboutes, mais l'état compte une colgate. Yo capige au même les vrais que ou cadami. Ça qui au pouvoir qui ni money. Yo ka fait ça, yo les si la jolie pas fait tout chien. Syndrome de Stockholm, ou empoisonné moi volontairement au clown des connes. C'est fidèle, moi, qu'on homme de seconde zone. Mais y'a les mains qui avouent clé qu'on laser aussi glow comme hier. Toujours les mêmes qui a servi go bye bye. Toujours peuple qui a servi go bye bye. Voici
Pas l'hôpital, pas ni docteur, pas ni glo, même qu'à pester. Gilet jaune, elle capé, pas courri caché. Peuple à l'effet fâché, pas sûr, j'allais se mâcher. Ou pas ni profiter, même les personnes âgées. Mais c'est vous qui puis enragé. Pour toujours tini, les sont doux dans la fête. Piotini, pour moi, pion malhonnête. C'est l'estio, la mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Taxi-taxi-taxi, TVA passe par là. Yo associé avec diable, yo associé avec Satan. Tout biche ça, yo petit dos à malhéré. Quand la vie des picoliades, tous les jours un cabat. Pour essayer de jouer les débouts, mais l'état continue colgate. Yo capige au même, les vrais, les ou pas d'amis. Ça qui yo pouvoir qui l'imani. Yo qu'a fait ça, yo les si la joie pas fait tout chien. La mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé rouleau. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé.
C'était La Mafia c'est yo, tiré de l'album Mosaïca, Amiralty, sur Esprit Occitanie dans l'émission Vers de Terre. Bonjour tout le monde, c'est Mathilde, du coup je reprends l'émission et je serai avec vous pour cette deuxième partie. Revenons où nous nous étions arrêtés, le scandale du chlordécone en Outre-mer. Maryse, vous nous parliez au début de cette affaire du chlordécone aux Antilles, et notamment en Martinique, d'où vous venez. Pouvez-vous nous faire part de votre récit ?
Oui, je vais en parler, mais une réflexion s'impose néanmoins. La définition du racisme environnemental qui vient d'être faite par nos experts semble bien s'appliquer à l'empoisonnement au chlordécone. Un lieu précis ? Pas toute la France ? Une population en majorité noire ? Dont les ancêtres ont été en plus victimes de la colonisation. Oui, des doigts bafoués, c'est ça. Et ça dure depuis des décennies dans une grande indifférence.
Je comprends. D'ailleurs, Jules, comme c'est l'un de vos sujets de recherche, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte du chlordécone ?
Alors oui, je pense qu'il est important de parler du contexte colonial des Antilles. Les Occidentaux ont colonisé ces territoires à partir du génocide des peuples autochtones au XVIIe siècle, puis ont mis en place la traite négrière au début du XVIIIe. Ils ont aussi développé la plantation de canne à sucre, qui a enrichi les colons et la France.
Mais on ne s'éparpille pas un petit peu là ? Le chlordécone concerne bien la banane, et là vous parlez de canne à sucre, non ?
Bah, du fait de la concurrence nationale et internationale du sucre au XIXe siècle, les planteurs de canne à sucre se sont diversifiés au profit de la banane. Et donc c'est comme ça qu'on est passé de la canne à sucre à la banane.
Oui, c'est ça. Les bananeries en Martinique et en Guadeloupe sont la propriété des béquets. Ils sont les descendants des blancs propriétaires des anciennes plantations sous l'esclavage. Ils sont seulement 1% en Martinique, mais ils détiennent 50% des terres et 90% de l'industrie et de l'agroalimentaire.
Et donc, le chlordécone a été inventé pour lutter contre les insectes qui ravagent les cultures de bananes, c'est ça ?
Oui, le charançon. Et pour comprendre l'histoire de cet insecticide, il est mis sur le marché en 1958 aux États-Unis, sauf qu'en 1976, le scandale de Hopewell éclate et va provoquer l'interdiction de la vente de ce produit aux États-Unis. L'histoire, c'est que des ouvriers qui travaillaient dans une usine de production de Capone, donc qui est le premier nom du chlordécone, ont été contaminés et la rivière d'à côté polluée.
Sauf qu'en France, c'est pas la même chose. Il n'est interdit que 15 ans plus tard, en 1990. Et le pire, c'est que l'État a donné deux dérogations pour continuer d'utiliser le chlordécone aux Antilles après cette date. Il fallait épuiser les stocks. Alors même que l'OMS a classé le produit comme substance cancérigène en 1979, après le scandale américain. Vous vous rendez compte ?
Oui, mais comment ça une dérogation ? L'argument de l'épuisement des stocks a vraiment été invoqué ?
Malheureusement, oui. En fait, le propriétaire de l'entreprise qui produisait le chlordécone était aussi le président du groupement des producteurs de bananes en Martinique, un certain Yves Ayotte. Comme il est issu d'une riche et puissante famille de béquets, il a pu influencer avec les autres planteurs pour avoir cette dérogation, ce qui a permis d'utiliser le chlordécone aux Antilles jusqu'en 93.
Officiellement 93, parce qu'en 2002, 2008 et 2011, on a retrouvé plusieurs tonnes de chlordécone stockées dans les entrepôts de béquets en Martinique. En 2002, d'ailleurs, à Dunkerque, il y a eu une saisie de patates douces positives au chlordécone qui a été détruite pour éviter qu'elle ne soit vendue à Rungis.
Ça a dû faire un sacré scandale, tout ça. Et le pire, c'est que je n'en ai pas entendu parler ici, en métropole.
C'est vrai. Le scandale du chlordécone éclate à la fin des années 1990. Des analyses ont révélé la pollution des cours d'eau et de l'eau potable avec des taux de chlordécone bien au-dessus des normes. Il y a un quart de la surface agricole de la Martinique et de la Guadeloupe qui est contaminée.
C'est carrément une pollution généralisée, puisqu'on retrouve cet insecticide dans les sols, les nappes phréatiques, les cours d'eau, les littoraux. Et c'est qu'il y en a partout aussi, dans la nourriture et dans le corps humain. Selon Santé publique France, en 2013, aux alentours de 92% des Martiniquais et Martiniquaises et 95% des Guadeloupéens et Guadeloupéennes étaient contaminés.
Mais cette contamination, elle fait quoi concrètement? Ça rend du malade les gens?
Oui, c'est une bonne question. Jules, je vous laisse la parole.
Le chlordécone a des effets nocifs sur la santé. Il provoque plusieurs pathologies, comme la prématurité et le retard du développement du nourrisson, l'infertilité, l'endommagement du système nerveux ou encore le cancer de la prostate. En Martinique, chaque année, 227 nouveaux cas de cancer sont déclarés pour 100 000 habitants et habitantes. La région détient le triste record mondial de la survenance de ce cancer.
Une abomination. Tout le monde en Martinique a perdu 2 ou 3 parents du cancer de la prostate. Regardez, ma vieille voisine Jeanne, qui est d'origine haïtienne, elle avait des frères qui ont travaillé dans la banane. Ils sont tous morts du cancer. Elle-même, elle est malade d'un cancer. Qui nous prouve que ce n'est pas lié? Il n'a pas encore été démontré que d'autres maladies puissent être causées par le chlordécone.
Mais j'ai du mal à voir le rapport avec Haïti.
Beaucoup d'Haïtiens étaient venus travailler dans la banane sans être déclarés par les béquets. Sans contrat, on ne peut pas être indemnisé. Mais de toutes les façons, Antillais ou Haïtiens, peu importe, ils sont morts du cancer de la prostate avant de pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Cette dernière n'existe que depuis 2021. À ce jour, il y a quand même 75 personnes qui ont été indemnisées grâce au soutien des associations, parce que seules les victimes n'auraient pas pu le faire.
Et donc, si je comprends bien, pour y parvenir, il y a eu un mouvement de protestation, c'est ça Maryse?
Oui, dès 2006, 2 associations ont dénoncé ce scandale et ont déposé une plainte auprès de la justice pour avoir une reconnaissance et une indemnisation. Ce qu'il est important de dire, c'est que les plaintes n'ont pas été traitées. Et vous savez, des preuves ont disparu des dossiers pendant 15 ans, du genre disparition du rapport sur les contrôles d'eau polluée, etc.
2 associations, mais vous en faisiez partie ou pas?
Non, mais je les connais bien, c'est le CRAN et Étienne Béred. Mais maintenant, c'est un collectif de 40 associations, syndicats et élus qui se battent.
J'ai une question peut-être un peu délicate, mais pourquoi les Antillais et Antillaises ne se sont pas révoltés en masse?
La résistance, ça nous connaît depuis des siècles de marronnage, durant l'esclavage. C'est les esclaves qui se rebellaient contre le système en s'installant dans les montagnes. Ils créaient des modes de vie alternatifs au niveau social et au niveau de l'agriculture également. Ensuite, il y en a eu des luttes ouvrières en Martinique et des grèves depuis 1900, sauf que ça a été réglé dans la violence et le sang par les autorités. Et donc maintenant, les gens sont méfiants, voire même défaitistes. Pour ma part, j'ai le sentiment que personne n'a envie d'en parler parce que ça crée de l'anxiété, ça empêche de vivre. Même si la méfiance par rapport à l'État se matérialise tous les jours.
Et cette méfiance, elle s'est fait d'autant plus ressentir lors du Covid. Les Antillais et les Antillaises ont refusé en masse le vaccin. Ils ont manifesté pour s'y opposer. Et encore une fois, la réponse de l'État n'était pas vraiment adaptée au vu du contexte. L'État a préféré moraliser les comportements individuels plutôt que de prendre en charge le contexte général de méfiance lié au scandale du chlordécone.
Mais justement, l'État dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait concrètement concernant le scandale du chlordécone? Comment ça a fini, Maryse?
L'État finit quand même par prendre des décisions, par exemple en mettant en place des plans d'action chlordécone à partir de 2008.
Des plans d'action sur le chlordécone, Jules, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors dès 2008, des plans d'action de l'État ont été mis en place pour trouver des solutions face à cette affaire. Mais ce qui est intéressant justement, c'est la place de la population antillaise dans la mise en place de ces mesures. En effet, l'État n'a pas consulté la population et n'a pas tenu compte des habitudes alimentaires. En gros, ces plans sont déconnectés du terrain.
Tellement déconnectés que les associations ont intenté un recours en justice. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas manger ce qu'ils ont dans leur jardin quand ils ont l'habitude de faire des plantations. Simplement, il y a d'autres façons de le faire. Et du coup, les gens ont continué à manger comme d'habitude dans leur jardin, à continuer à se polluer. Et après 18 ans, la procédure judiciaire a conclu à un non-lieu le 2 janvier 2023.
Un non-lieu ? Mais comment était perçue cette décision aux Antilles ?
Avec colère. Les associations, syndicats et élus contestent les arguments des magistrats et entendent bien poursuivre le combat.
Je comprends, Maryse, mais comment continue-t-elle concrètement ce combat ?
Ben, les gens sont tellement choqués, vous savez, mais heureusement, un député guadeloupéen, Élie Califère, a proposé une loi qui a été adoptée le 29 février 2024.
Ah oui, c'est le fameux vote dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette loi ? Jules, peut-être ?
Oui, c'est celui-là. Le texte prévoit que, et là je cite, « la République française reconnaît sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques liés à l'utilisation du chlordécone pendant toutes ces années. »
Maryse, peut-on considérer ça comme une avancée importante ?
Oui, et non. Parce que le vote du texte, c'est important, mais il a surtout une valeur symbolique. Mais ça ne va pas assez loin. Il n'implique même pas les producteurs de l'époque. C'est un début de reconnaissance, mais ce n'est pas suffisant.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Eh bien, le jeudi 21 mars 2024, le Comité européen des droits sociaux a été saisi pour exiger de la France l'amélioration de l'accès à l'eau en Guadeloupe et des réparations pour le scandale du chlordécone aux Antilles.
Oui, mais on parle bien de réparations financières également. Savez-vous que les planteurs ont été dédommagés par l'État à l'abolition de l'esclavage ? Vous le saviez ? Bref, la Fédération internationale des droits de l'homme, soutenue par la Ligue des droits de l'homme et l'association Tiens Bered, insiste pour que soient prises en compte plus sérieusement, je cite, « les inégalités historiques entre l'Hexagone et les territoires ultramarins ». Ça, c'est dans la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe.
Donc il y a quand même du positif. Est-ce que la population est soulagée ?
Pas vraiment, non. Ils se sont foutus de nous, ça fait 18 ans qu'on se bat. Je ne sais plus combien de morts il y a eu et qu'il y en aura encore. Moi-même, j'ai fait le test. Je suis en dessous du seuil de toxicité. Mais vous savez, les seuils, ça se manipule. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas si mon test reflète la réalité. Ça crée de l'anxiété.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Maryse ?
La population, les associations attendent là. En fait, je viens d'avoir des résultats parce qu'en juin, il devait y avoir le recours de l'appel en justice de janvier par rapport à toutes les revendications. Et ce recours demandait justement des dépistages systématiques, une attention sur la modification des seuils, des recherches pour la dépollution des sols, l'application du principe pollueur-payeur et l'accompagnement de la population pour l'indemnisation. Mais il semblerait que ce recours soit déplacé en octobre prochain, du fait de l'actualité.
D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'impliquer plus la population, d'enfin lui donner un rôle dans cette histoire ?
Il serait nécessaire de réfléchir aux formes de communication. Je parlais plus haut de la façon dont on a dit aux gens « vous ne pouvez plus manger ce que vous plantez dans vos jardins ». Mais évidemment, ça ne marche pas, ce genre de choses. Une réelle prise en compte de la participation citoyenne dans les débats, ça se travaille. Je me pose la question sur les stratégies employées. Est-ce que des techniques comme l'éducation populaire ne faciliteraient pas l'appropriation de l'information par tous ?
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Maryse. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à en avoir appris beaucoup sur ce scandale. Pour conclure, voici les associations écologistes antillaises engagées si vous voulez les aider en signant des pétitions ou via des cagnottes. Maryse, je vous laisse les présenter.
Alors, il s'agit des associations Tiens Bered, Lianage pour dépolluer Martinique, Matnik Dubout, Gaoulé contre Chlordécone, Vivre Guadeloupe. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que la pétition dont nous avons parlé et qui concernait l'appel en juin, qui est maintenant repoussé en octobre, il ne concerne pas seulement les Martiniquais et les Guadeloupéens. Est-ce que vous savez que dans l'ensemble des fleuves et des rivières en France, il y a des polluants éternels qui rendent malades ? Alors, vous, chers auditeurs, vous tous, signez cette pétition pour que soit prise en compte le fait que nous n'acceptons plus d'être encore empoisonnés.
Merci Maryse, et merci aussi à l'ensemble des invités sur le plateau. Un grand merci à nos deux chercheurs et chercheuses, Jules et Clément.
Merci.
Et merci aussi à Farès. Peut-être que ces informations vous serviront pour vos études. On espère que ça vous a plu de participer à l'émission Vers de Terre.
Oui, merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant et éclairant.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, Mathilde, Noémie, Maryse, Clément, Farès, Jules et Adèle. Et merci aussi aux personnes qui nous ont aidés dans l'écriture du script, nos professeurs et Armel Parion. Pour finir, un grand merci à Esprit Occitanie, merci à son président Jacques Laverne de nous donner cet espace d'expression, merci également à Léo et à la technique ainsi qu'aux auditeurs et auditrices pour leur écoute. Retrouvez tous les liens sur le site d'Esprit Occitanie. We gotta hear it all the time. We are the people of the soil. They got to keep it all in mind.